vous imaginez notre âme avec des élastiques. C'est-à-dire que parfois, on réussit à aligner notre âme sur notre esprit et à vivre vraiment ce que Dieu demande, donc la vie du royaume de Dieu. Et puis, souvent, on tire un peu sur les élastiques, puis on descend, on redescend, on redescend. Et voilà, c'est souvent notre vie, hein, parce que, hélas, on n'est pas parfait. Hélas, parfois notre chair, c'est-à-dire notre nature humaine prend le dessus et du coup on redescend. Et j'aimais bien ce matin, j'ai entendu, comme j'écoute souvent, on écoute toujours le dimanche matin, le culte à la radio. Et c'était un groupe de musique qui passait, c'est la première fois, je ne les connais pas, peut-être que, je pense que David doit les connaître. Et qui font des concerts expériences, c'est un peu spécial, mais j'aimais bien ce qu'ils disaient. Ils ont 30 et 35 ans, les deux qui parlaient là, et qui disaient, ils ont composé un morceau qui s'appelle « Aller à contre-courant ». Et ça m'a plu évidemment, parce que c'est un de mes thèmes, les enfants de l'école du dimanche le savent bien, « Aller à contre-courant ». Et justement, ils expliquaient comme c'est difficile, et sans la grâce de Dieu, c'est pas facile, c'est quasiment impossible d'aller à contre-courant. On va avec le flot, hein. Et ce que je dis toujours aux enfants, je le répète aux grands, il n'y a que les poissons crevés qui descendent le courant. Les poissons vivants, ils remontent. Donc voilà, ça ne fait pas trop envie d'être un poisson crevé. Et soyons donc des poissons vivants, mais ça ne peut se faire qu'avec la grâce de Dieu. Et ces fameux élastiques, là, hein, entre le royaume du bas là, et le royaume de Dieu en haut, eh ben voilà, il faut tirer vers le haut. Et justement, un des deux jeunes disait qu'il aimait fréquenter. Ah oui, c'était intéressant ce qu'il a dit, parce que j'étais encouragée. Je me dis, waouh, c'est bien là, les 30-35 ans, hein, qui réfléchissent comme ça, ça fait plaisir. Il disait, il fréquentait beaucoup de gens plus âgés. Je dis, oh là, des musiciens en plus, très modernes. J'ai prêté l'oreille. Et il a dit, parce qu'en fait, il aime bien choisir des gens qui ont eu une longue expérience avec le Seigneur, parce que ça le tire vers le haut. J'ai bien aimé l'expérience, ça le tire vers le haut. Et ça m'a fait plaisir, bien sûr, pas seulement parce que je suis âgée, mais parce que je pense que c'est important de fréquenter des gens qui nous tirent vers le haut. Il y a suffisamment de gens dans le monde qui nous tirent vers le bas, et ailleurs aussi. Effectivement, cherchons des gens qui nous tirent vers le haut, et que nous aussi on les tire vers le haut d'ailleurs, hein, pas seulement à sens unique. On n'est pas là pour être des wagons, mais des locomotives. Hein. Voilà, donc... Soyons encouragés. Vous imaginez mon petit dessin, j'espère, avec les élastiques, là, hein, et notre âme, il faut essayer de la remonter, l'aligner sur notre esprit pour vraiment marcher dans le royaume de Dieu. Et puis, pas laisser les poids de la vie nous faire descendre tout en bas pour marcher dans la chair. Et on a vu la semaine dernière que notre bon Abner, c'était son problème. Et marcher dans la chair, c'est-à-dire dans la nature humaine, c'est pas forcément faire des choses horribles, tuer, voler, se débaucher. C'est marcher selon notre propre façon de voir. Ah oh, mais on est bien quand même, hein. Eh oui, mais nos propres façons de voir, elles sont un peu limites. Et qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible ? Mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus. Et ça m'a fait plaisir la première fois où j'ai lu ça, quand j'étais adolescente. Je me souviens ma première réaction, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Oh mince alors. Mince, nos voix ne sont pas celles de Dieu, nos pensées ne sont pas celles de Dieu, mince. Et puis j'ai lu la suite, parce que mes pensées sont au-dessus. Et encore une fois, là, ça va avec mon petit dessin. Et mes voix sont au-dessus de vos voix. Ah, sont par en dessous. Hein. Et parfois, le diable, ce qu'il vous dit à l'oreille, souvent même, c'est « Ah oui, mais ce que Dieu veut, c'est casse-pied, ça va te poser des problèmes, tu vas aller à contre-courant, tu vas te faire mal voir, tu vas te sentir mal, mais Dieu, il te freine, Dieu, il t'embête, il te met que des interdits, et là, 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 voilà. Hein » C'est ça qui vient vous susurrer à l'oreille. La vérité, c'est que mes voix sont au-dessus de vos voix. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et c'est au-dessus, ça veut dire que c'est mieux. C'est mieux. Alors c'est vrai que parfois c'est un peu difficile, mais c'est mieux. Parce qu'il y a le court terme et le long terme. Hein, on entend ça parfois, les commerciaux utilisent ce vocabulaire aussi, bah parce que dans le court terme, ça peut sembler sympa. Mais au long terme, ça peut être problématique. Et inversement, avec Dieu, le court terme, parfois c'est un peu dur. Oh, faut que je remplisse ma feuille d'impôt correctement. Faut pas que je mente. Ah, oh, mais ce serait tellement bien si je pouvais faire passer ça pour ça, etc. Ah oui, à court terme, mais à long terme, qu'est-ce que ça va donner? Et je me souviens, c'est l'expérience des enfants à l'école. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand le prof vous a mis 3 points de plus et vous apercevez qu'il a mal compté? Alors, il y a 2 solutions. On dit, chouette, j'ai 16 au lieu de 13, ou bien j'ai 13 au lieu de 10, c'est magnifique. Ou on va voir le prof et on lui dit, madame, vous vous êtes trompée. Hein, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà fait ici. J'ai eu des échos à l'école du dimanche. Hein, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, à court terme, parfois, on perd les 3 points, ok. Pas toujours, parce qu'il y a des profs qui récompensent. Mais en admettant qu'on les perde, quand même, l'estime, le prof vous estime autrement plus. Il dit, ça, c'est un enfant différent. Ça, c'est un jeune de valeur. C'est un jeune qui a des valeurs. C'est un jeune sur qui on peut compter. C'est quelqu'un, c'est une personne de vérité. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Et vous savez, dans les écoles, vous savez peut-être pas, mais les profs, ils parlent entre eux. Ils sont très bavards, les profs. Il y en a quelques-uns ici. Ils vont me retrouver à la sortie. Mais les profs, ils sont très bavards et ils se racontent les choses. Ils disent, tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Oh, la petite untel ou le petit untel. Ah, il est venu me voir. Tu te rends compte? Quelle honnêteté! Eh oui, ça fait du chemin. Et votre réputation dans l'école, elle est en cause là. Et c'est valable. Et le jour où ils savent que vous êtes chrétien, ça leur parle autrement plus. Hein? Et je pense que ça, c'est des choses à voir. Il y a le court terme et le long terme. Et aller à contre-courant, ça vaut la peine. Par contre, ça demande un peu d'énergie. C'est ce qu'ils disaient les jeunes ce matin à la radio. Ouh, aller à contre-courant, ça demande de l'énergie. Et ils expliquaient comment eux sont allés à contre-courant. Et ça demande aussi de changer ses priorités. Ah, j'étais contente d'entendre ça. Changer nos priorités. Priorité, c'est pas moi. Mais c'est Dieu. Dieu d'abord. Et le service pour le Seigneur. Voilà. Donc, réjouissons-nous. Il y a encore beaucoup de gens. Hein, vous vous souvenez cette histoire de Élie qui était complètement découragé après que la reine l'ait menacé et qui disait, oh là là, je suis moi seule fidèle à Dieu. Moi seule. Dieu très gentiment lui dit, allons Élie, il y en a 5 000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et donc ça c'est 5 000 hommes, donc ça veut dire c'est des grandes familles, hein. On comptait juste les hommes, mais ça faisait beaucoup de monde. Hein. Et je crois qu'il ne faut pas se décourager, souvent on parle des choses négatives, mais ce matin on veut parler des choses positives. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fléchi le genou devant la nature humaine, la chair, vous l'appelez comme vous voulez, les pressions qu'on a actuellement dans la société. Il y en a encore beaucoup et c'est encourageant, ils existent et ils sont dynamiques et ils vont faire des belles choses, je pense. Alors, on va revenir, on est 1000 ans avant Jésus-Christ à peu près, hein, un petit peu plus là. Pour ceux qui n'ont pas eu le début, on traite donc de la royauté de David. Il vient d'être nommé roi, mais uniquement sur une tribu, il y a 12 tribus, et il est nommé roi uniquement sur la tribu de Juda. Il a eu pas mal de problèmes avant, Saül est mort, mais le chef de son armée, un certain Abner, est toujours vivant, il n'est pas mort à la bataille, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, en tout cas il est là. Et par réaction, aussitôt que Saül est mort, il a pris un fils de Saül et il l'a nommé roi sur les 11 autres tribus et il l'a installé de l'autre côté du Jourdain pour le protéger des Philistins. Voilà, ça c'est le cadre de notre histoire. Et puis, David, il est roi, il s'installe dans la ville d'Hébron. Et au chapitre 3, donc de Samuel 3, on nous dit « La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. » Ouais, parce qu'il vient d'y avoir un épisode de guerre qu'on a vu la semaine dernière, qui n'était pas drôle du tout. Et l'auteur, là, essaie de nous dire, vous savez, là, je vous raconte juste un épisode, mais il y a eu d'autres épisodes. La Bible ne raconte pas tous les détails, elle nous donne ce qui est important. Alors, c'est assez, hein, c'est volumineux, si elle avait tout raconté, ce serait problématique. Elle nous donne ce qui est important et ce qui est un message. Et donc, il nous détaille pas toutes les batailles. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Alors, moi, quand je lis un verset comme ça, ça me chatouille un peu. Je me dis, oh, Seigneur, t'aurais pas pu permettre que ce soit fini. Que David, il est roi, point. Et puis la guerre est finie, point. Et c'est fini. Voilà. Ça serait tellement mieux. Mais non, Dieu a permis que ça se fasse sur le temps. Déjà, entre le moment où il a eu l'onction et le moment où il a été roi, à Hébron, juste sur la tribu de Juda, il s'est passé une dizaine d'années. Je vous ai dit la dernière fois, moi ça me... 10 ans. 10 ans, il n'avait rien demandé ce petit berger. Et on le nomme roi, et il n'a que des enquiquines. C'est terrible. Mais c'est terrible. Moi, parfois, je me mets à sa place, je dis, mais moi, j'aurais craqué, j'aurais dit, bon, j'ai dû me tromper, ou le prophète, il avait mal digéré ce jour-là, et il m'a ouin, mais c'était pas ce qu'il fallait faire, c'est pas possible, ça fait 10 ans que je n'ai que des embêtements. La persévérance. Mais il a appris beaucoup de choses, hein. David devenait de plus en plus fort, et ça a été quelque chose de progressif. Donc, faut accepter dans nos vies aussi que les choses se fassent progressivement. Ça, c'est déplaisant. Hein. Franchement, on aimerait mieux que ce soit râpé, là, que ce soit fait, clac, clac, c'est fini. Et non, on progresse. Notre caractère s'améliore aussi. Nos façons de faire s'améliorent. Il faut accepter l'idée qu'on progresse. Alors, l'important, c'est de progresser. Hein, je dis, c'est comme les feuilles de température, vous savez, au pied du lit, là, dans les hôpitaux. On a les feuilles de température. Et on a des infirmières ici, j'ai vérifié mes infos. Vous ne trouverez pas une feuille de température si la personne, elle arrive, elle a 40. Vous ne trouverez pas une feuille de température qui fait 37. En général, ça se passe comme ça. Je crois. Hein. Ça va, ça monte, ça redescend. Et puis voilà, et progressivement, on arrive à 37. Sauf si on a un médicament suffisamment fort. Mais en la nature, c'est comme ça. Et les progrès, c'est pareil. Progresse un peu, retombe un peu. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est patient. Ben, il en a bien besoin avec nous, hein, parce que vraiment, on ne progresse jamais comme ça, parce qu'on est humain. Hein, de temps en temps, on se laisse attirer vers le royaume de Dieu, là, petits élastiques, et puis ça retombe, puis ça remonte, ça retombe. Mais Dieu est avec nous, et globalement, David devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül s'affaiblissait. Donc ça s'est fait tout doucement. Pauvre David. Alors maintenant, par contre, le pauvre David, il y a quand même des choses qui nous chiffonnent chez lui, là. La suite. Des fils naquirent de David à Hébron. Son premier-né fut Amnon d'Aïnoam, la Jizrélite. C'est la première femme qu'il avait épousée quand on lui avait volé sa femme que Saül lui avait donnée. On va voir ça après. Le deuxième, Kileab d'Abigaël, femme de Nabal. Vous vous souvenez, on avait vu cette histoire où elle se retrouvait seule puisque son mari venait de mourir et... Bah, il l'a prise comme femme, voilà, pour venir à son secours aussi. De Nabal le Carmélite. Le troisième, Absalom, on va en reparler de celui-là, fils de Maaca, fille de Talmaï, roi de Guéchour. Qu'est-ce qu'il fabrique à épouser la fille d'un roi cananéen? Le quatrième, Adonias, fils de Haggit. Le cinquième, Stéphatia, fils d'Abital, et le sixième, Ithréam, d'Égla, femme de David. Voici ce qui naquirent de David à Hébron. What? Bah, ça choque quand même. Alors, David vit sa vie de roi. Il est roi maintenant. Il a sa maison établie à Hébron, maison qui devient de plus en plus forte, c'est-à-dire, quand on parle de maison, hein, c'est la famille. Pendant que celle de Saül s'affaiblissait. Mais le problème, c'est que David, maintenant qu'il est roi, il va imiter les mœurs royales de son époque. Ah ! Il va multiplier les femmes et les concubines. Pourquoi ? Ça peut vous sembler bizarre, mais en fait, c'était pour sceller des alliances. Des alliances avec les voisins païens. À l'époque, quand on voulait faire la paix avec un autre peuple, eh bien, le roi épousait une femme de ce pays-là, si possible la fille du roi. Et c'est ce qu'il a fait. Le problème, c'est que les femmes n'arrivent pas seules chez David. Oh, vous allez épouser la fille d'un roi, vous croyez que, pouf, on emmène la fille, on la dépose chez David. Non, 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 elle venait avec ses servantes, ses serviteurs. Elle venait avec ses statues, ses symboles. Et parfois même les prêtres. Alors, il va y avoir beaucoup d'enfants, naturellement. Et ces enfants-là, malheureusement, on va en reparler, surtout d'Absalom, qui va lui créer bien des ennuis. Fille du roi de Geshur, quelle belle alliance. C'était intelligent comme alliance diplomatique, parce que le pays de Geshur était au nord, et c'était bien de s'assurer qu'il n'y aurait pas d'invasion au nord. Donc, alliance avec le roi de Geshur. Allez, hop. De plus, ces mariages diplomatiques sont totalement interdits dans la loi de Moïse, et David le savait. Deutéronome 7, 3 et 17, 17, il y a d'autres textes, mais c'est ceux que j'ai trouvés les plus probants. C'était pas autorisé, ces mariages diplomatiques. Et même, il était demandé au roi de ne pas avoir plusieurs femmes. Je crois que c'est Deutéronome 17, 17. Son mariage, évidemment, avec la fille du roi de Geshur, lui donnait un allié au nord, comme j'ai dit, et ça, c'était intéressant. Vu qu'il y avait Ishbosheth, le fils de Saül, qui était pas loin, il était pris en tenaille entre Hébron et Geshur. Bonne idée. Mais des idées bien charnelles, comme on dirait en vocabulaire évangélique, des idées très naturelles, pensées, mais ce n'était pas le cœur de Dieu du tout. Bon, c'est dommage. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? David, tout homme de Dieu qu'il était, il a souvent marché, comme nous tous, à côté de ses godasses, il a souvent marché à son idée, plus qu'à l'idée de Dieu. Et là, dans le domaine des femmes, des alliances diplomatiques, franchement, c'est ce qu'il a fait. Et c'est intéressant parce que vous savez qu'il y a la loi du semer-récolté. Et il a semé ce jour-là tout un tas d'ennuis qui vont lui pourrir la vie pendant tout le reste de sa royauté, de sa monarchie. Et oui, on récolte ce qu'on a semé et le pauvre David va en faire les frais. Il s'est aligné sur les rois qui l'entouraient. Et là, quelques mots quand même sur la pression du monde qui nous environne. Qu'on le veuille ou non, on subit ces pressions-là. On écoute la radio, on regarde les émissions de télé, on est sur les tablettes et autres ordinateurs, on s'informe sur tout ce qui se passe. On est complètement bombardé par les pubs. Moi, je suis publiphobe, alors ça va, parce que je les regarde pas, je les enlève systématiquement. Mais bon, comme on n'a pas la télé, ça va, j'en subis pas trop. Mais il faut reconnaître, hein. Je me souviens de... C'était Antoine qui détestait dans le métro tout le temps. On est complètement bombardé. Alors, est-ce qu'on est sensible à cette pression? Déjà, à la pression visible, est-ce qu'on y est sensible? Ben oui, évidemment. C'est des pressions, même si elles sont visibles, on les sent, ces pressions, pour être comme tout le monde. Et puis, ça joue sur notre honnêteté, sur la notion de vérité, la notion de loyauté, la notion de fidélité. On est bombardé par le contraire, sans arrêt. David était bombardé par ça aussi, même s'il n'y avait pas les médias. Mais le téléphone arabe, ça marchait bien. C'est comme ça que ça se fait. Un roi, c'est comme ça qu'il fait. Comment avoir la paix? Utilisons les bons moyens, les alliances. Est-ce qu'on y est sensible? Est-ce qu'on y cède à ces pressions-là? Déjà, est-ce qu'on en est conscient? Vous savez, le problème, c'est que parfois on vit dedans et on n'en est pas conscient. Ça fait penser à une histoire stupide. Mon père me racontait ça. Ce monsieur qui trouvait que son bout qui sentait mauvais. Alors le gars lui avait dit, tu le gardes dans ta maison pendant plusieurs jours, tu verras après, il ne sentira plus rien. Ben oui, parce qu'on s'habitue. On s'habitue. Alors attention à ne pas s'habituer. C'est important. Et non, après, il y a les pressions. Celles-là sont visibles, il y a les pressions invisibles. Ces pressions qui sont diluées dans l'air du temps. Pas le parfum, hein, mais dans l'air du temps qu'on vit. Est-ce qu'on sait les reconnaître aussi? Ah, mais on fait comme ça. Maintenant, quand tu vas voir un patron, tu lui fais comprendre que c'est un honneur pour lui de t'embaucher. Oui, c'est ce qui se dit aujourd'hui. C'est vrai, je ne raconte pas d'histoire. Hein. Voilà. Et oui, c'est dilué dans l'air du temps. Je deviens au centre. Je suis le centre. C'est le fonctionnement de notre société. Alors, il y a des bonnes choses, mais on est passé d'une société qui a pas mal écrasé les gens. Hein, si on écoutait récemment à France Culture ce qui s'est passé au 19e siècle, pouf. Oui, il y a eu des abus, hein, mais maintenant on tombe dans l'abus contraire. C'est le fonctionnement de notre société au travail, dans les études, dans les relations sociales. Les façons de parler, les façons de juger, les façons de critiquer, les façons de penser. Tout ça, c'est invisible, mais c'est là. Et on se prend parfois en tant que chrétien à suivre les mêmes chemins, parce que vous savez, c'est comme les ornières. Hein, si vous voulez rouler dans un chemin qui a des belles ornières, bah essayez d'en sortir, tiens. Vous allez essayer, vous allez retomber dedans. Et c'est un petit peu comme ça. Donc attention. Je pense que ça, ça fait partie des sujets de prière. Et d'où l'importance, quand on fait un choix, de ne pas faire ses choix en fonction de ça, mais en fonction du Seigneur. Pourquoi on dit qu'il faut lire la Bible ? Parce que si on reçoit toutes ces influences, visibles et invisibles, et qu'on ne les contrebalance pas avec l'influence de la parole de Dieu, on retombera dans ses ornières et on va s'assimiler complètement à ses façons de penser. Et c'est ce qu'a fait David. On dit, oh le vilain quand même, avoir autant de femmes, eh oui, mais c'était les ornières. Le roi faisait comme ça, et il est tombé dans l'ornière. Je ne sais même pas s'il l'a remis en question une fois ou l'autre. C'était comme ça, c'était l'air du temps. Donc c'est valable pour nous aussi. Est-ce qu'on va chercher à rester des ambassadeurs d'un autre royaume, ou est-ce qu'on va chercher la sagesse de Dieu contre, qui n'est pas la même que la sagesse des hommes ? Attention. Et ce qui est marrant, c'est que parfois en ce moment, le monde finit par reconnaître des valeurs chrétiennes. Quand Samuel a eu son diplôme là, à HEC, j'étais extrêmement choquée d'entendre celui qui faisait le discours parler de l'importance de la bienveillance. Valeurs chrétiennes. C'est dans les fruits de l'esprit, entre parenthèses. Galates. Oui, il redécouvre des choses que nous, on est en train de perdre. Parce qu'on a été influencés par la société. Bon, tant mieux, il le redécouvre, c'est bien. Mais attention, si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, parce qu'on croit la connaître, parce qu'on allait à l'école du dimanche, parce qu'on en a entendu parler. Mais vous savez, hier, je cherchais un texte et je relisais les deux épîtres à Timothée. Ça fait partie de mes préférés. Et je me suis dit, mais mince, faut que je les relise. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas lus et on oublie. On oublie des choses capitales qu'il y a dans ces épîtres. Donc, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Si on ne fait pas cet effort, ça sera impossible d'aller à contre-courant. On ne pourra pas être des ambassadeurs de Jésus-Christ. Donc, David, lui, effectivement, il est tombé dans l'ornière. Il ne va pas échapper à la loi du semer récolté et il va payer le prix fort. Vous verrez, quand on arrivera à Absalom, ce n'est pas le prochain épisode, donc il faudra être patient. Mais là, il va en baver vraiment. Mais Dieu nous laisse libres de faire nos choix. Alors, n'imaginons pas non plus que Dieu attend le moment propice pour nous taper dessus. Ça, je le dis à chaque fois. Vous savez très bien que je radote, mais tous les enseignants radotent. Dieu n'est pas là avec son bâton, dire « Oh là, elle va faire le mauvais choix, je vais lui taper dessus. » Mais non. Vous savez que le principe, c'est ce que je dis toujours. Si je sors sous la pluie d'orage sans mon parapluie, je serai mouillée. C'est pas Dieu qui va me mouiller. Simplement, je n'ai pas pris mon parapluie. Voilà. Et les choix qui sont faits avec le Seigneur vont nous permettre de tenir bon, même s'il y a des difficultés. Mais les choix qui sont faits sans le Seigneur, ou carrément contre sa volonté, vont forcément être une source de difficultés pour nous. David en a fait l'expérience. On va parler de ça plus en détail une prochaine fois. Ceci étant, ne soyons pas découragés. Dieu est un Dieu de compassion. Moi, j'aime bien cette phrase, lent à la colère, et riche en bonté. À celui qui reconnaît ses erreurs et ses fautes, celui qui demande pardon, il pardonne et il restaure. Parfois, on pense qu'au pardon. Oh, ouf, Dieu m'a pardonné. Mais parfois, on a besoin de restauration. On a besoin de guérison après. Et Dieu est un Dieu qui pardonne et qui restaure. Ceci étant, il faut demander pardon. Le pardon est disponible. Quand il est mort sur la croix, il a rendu le pardon disponible pour tous les hommes. Mais il faut quand même le demander. C'est logique. Il sait de quoi nous sommes faits. Moi, j'aime bien ce verset. Il sait qu'on fonctionne comme ça. Il sait de quoi nous sommes faits. Le verset suivant dit, il sait que nous sommes poussière. Pas grand-chose. Hein. Il sait de quoi nous sommes faits. Et puis, il y a ce verset aussi qu'on utilise à tort et à travers dans la littérature française. L'esprit est bien disposé, mais la chair, c'est-à-dire notre nature humaine, est faible. Donc, notre esprit, ça illustre un peu ce qu'André a dit. L'esprit, il est là-haut. Il est bien disposé, il a envie de marcher dans le royaume de Dieu. Mais la chair, sur notre état naturel, ben il est un peu fragile, hein, il tire un peu sur les élastiques, puis il a tendance à descendre. Notre nature est faible. Le seul gros danger, c'est ce que André disait tout à l'heure, c'est de justifier notre chair, et là on est fichu. Si on la justifie au lieu de demander pardon, on se coupe de l'issue de secours. Dieu a mis une issue de secours dans nos problèmes, mais si on continue à se justifier, c'est comme si on bloquait notre issue de secours. Ah, pauvre David, mais quand même, il vivait à une époque difficile, j'aurais pas aimé vivre à cette époque-là. Verset 6. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner devint fort dans la maison de Saül. Notre Abner, voilà qu'on reparle de lui. C'est un homme fort, c'est l'homme fort de Saül. Saül est mort, il a pris Ishbosheth comme roi, mais franchement, Ishbosheth, il est fragile. On va le voir après. Et Abner, c'est l'homme fort du régime. Alors, une anecdote un peu croustillante, naturellement. Saül avait eu une concubine, lui aussi, hein, parce qu'il avait fait comme les rois, nommée Ritzpa, fille d'Aïa. Or, Ishbosheth dit à Abner, donc le roi que Abner avait mis en place, il dit à Abner, « Mais pourquoi es-tu allé avec la concubine de mon père ?» Très fâché par les propos d'Ishbosheth, Abner répondit, « Suis-je une tête de chien appartenant à Juda ? Aujourd'hui, j'agis avec fidélité envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses compagnons, et je ne t'ai pas livré à David. » Je suis gentille, hein, je ne t'ai pas livré à David. « Et c'est aujourd'hui que tu me demandes des comptes pour une faute avec cette femme. Que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute cela. » C'était une formule de serment. « Si je n'agis pas envers David. » Alors là, c'est fort quand même. Selon le serment que le Seigneur a fait à David. Il était au courant tout ce temps-là, lui. De retirer la royauté à la maison de Saül et d'établir le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersabée, donc du nord au sud. Ishbosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner. Vous voyez comment il était, le pauvre Ishbosheth, parce qu'il avait peur. Il avait peur de lui. Waouh, on est mal là. Un roi qui a peur de son chef militaire, qui ose rien dire et qui, pour une fois, a essayé d'affirmer son pouvoir royal en disant « Dis donc, Abner, ça se fait pas ce que tu fais. » Oh là, ça s'est mal passé. Il attendait que ça, j'ai l'impression, Abner. Il y a même des commentaires qui soupçonnent qu'il en a fait exprès pour arriver à rompre. Et c'est pas impossible. Quand on voit comment il s'est comporté, vous vous souvenez la dernière fois? La façon dont il s'est comporté. Oh non, on va pas faire la guerre, on va mettre 12 champions. Et puis non, arrêtez de nous poursuivre, on va pas se battre entre frères. Et puis quand Hazaël a voulu le poursuivre, mais non Hazaël, arrête, comment je pourrais regarder ton frère? Arrête, pousse-toi, va chercher quelqu'un d'autre. Enfin, on sentait qu'il voulait pas de cette guerre. Donc c'est pas très étonnant. Et il est possible, mais on peut penser autrement, mais il est possible qu'il en ait fait exprès, pour pouvoir rompre. Alors pourquoi? Ah, parce qu'il était très au courant qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Ce qui était courant à l'époque, c'est que le successeur d'un roi reprenne les femmes et les concubines de son prédécesseur. C'est le successeur qui avait le droit de reprendre, on va dire le harem en quelque sorte, mais le mot n'est pas dans la Bible, donc les concubines et les femmes du prédécesseur. C'était le successeur qui avait le droit, personne d'autre. Et s'il le faisait, ça veut dire qu'il se comportait en successeur. Et on va voir que c'est arrivé à David aussi. C'était une façon de dire, c'est moi qui commande ici, c'est moi le nouveau roi. Donc il savait ce qu'il faisait Abner en fréquentant une des femmes de Saül, décédée. Il savait qu'il agissait comme le prétendant au trône et que son action était vue absolument comme une trahison, haute trahison, par le fils de Saül, Ishbosheth. Alors évidemment, on peut se demander, comme je vous ai dit, s'il l'avait fait exprès, c'est possible. En tout cas, il a trouvé une excellente excuse pour rejoindre le camp de David. Quoi ? Alors là, pendant des années, il a poursuivi David avec Saül. il lui a fait toutes les misères qu'il a pu lui faire. Et puis là encore, il s'est empressé de nommer un roi, etc., contre la royauté de David. Et là, curieusement, voyez ce qu'il dit, ça vaut le coup de le relire. Si je n'agis pas envers David, selon le serment que le Seigneur a fait à David. Et là, pour la première fois, il se réclame de la parole de Dieu. Il n'aurait pas pu faire ça dès le début. Ça lui aurait coûté moins cher. Et le serment, il le connaît. Retirer la royauté à la maison de Saül, établir le trône de David sur Israël et sur Juda, donc l'ensemble des 12 tribus, du nord au sud. Il le savait. Et vous savez, quand on lit son histoire avant, là, les deux chapitres avant, on se dit, bah, le pauvre, il suit Saül. Mais non, il le savait. Il savait que Dieu avait parlé. Il savait ce que Dieu avait dit. Il savait que c'était David qui devait être roi. Même Saül l'avait reconnu. Il l'avait entendu, puisqu'il était avec l'armée devant la grotte d'Adoulam, et puis aussi dans le camp militaire où David avait pris la cruche, hein, et la lance. Donc tout ça, il l'a entendu. Il l'a entendu, il le savait, et il a quand même utilisé ses raisonnements plutôt que la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû aller trouver David à Hébron et lui dire, écoute, je sais que Dieu a parlé. Je connais la parole de Dieu. Je me rends et on va réunifier le pays. Non, il a fallu qu'il fasse une bêtise pour que ça se fasse sans lui. Il était plein de stratagèmes, Abner. Hein. Il réfléchissait beaucoup trop. Tout ce que Dieu lui demandait, c'est d'obéir à cette parole-là. Et est-ce qu'on n'est pas pareil, nous aussi? Avant d'obéir, est-ce qu'on ne tourne pas un petit peu en rond? Ishbosheth, de son côté, avait peur d'Abner. Il le sentait fort, plus renommé aussi. Il savait qu'il devait sa royauté à Abner, il lui devait tout. Il cherche pour une fois à s'imposer, à imposer son rôle royal en disant « Non, t'as pas le droit de prendre les concubines de mon père. » L'occasion était trop belle. Abner, qu'est-ce qu'il fait? Alors, dans un premier temps, il rappelle sa loyauté et sa fidélité à la famille de Saül. C'est bien, mais c'est pas ce que Dieu voulait. « Je ne t'ai pas livré à David. Estime-toi heureux, hein. J'aurais pu te livrer à David. » Ça montre sa force, hein. Fait un bras de fer avec Ishbosheth. Il lui rappelle les paroles du Seigneur. Il les connaissait donc. Et c'est par là qu'il aurait dû commencer. Et je me suis posé la question, pourquoi, et on va terminer là-dessus pour cette fois, pourquoi est-ce que nous aussi, on utilise souvent la parole de Dieu en dernier? Pourquoi est-ce qu'on cherche toujours d'abord les solutions humaines les plus logiques, les plus raisonnables, les plus politiquement correctes? Oui, mais parce que on nous apprend à faire ceci, etc. C'est mieux comme ça, c'est plus raisonnable. Quand on sait que la racine du problème est ailleurs. Et on est humain. La racine du problème, elle est expliquée en long et large dans la parole de Dieu. C'est le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Eh oui? Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit clairement, la racine des problèmes, elle est là. Le cœur de l'homme est désespérément mauvais. Il est tortueux plus que toute autre chose, dit la Bible. Ça, c'est la racine. Et alors après, on est étonné de voir des horreurs, de voir des choses qui nous choquent. Mais oui, mais la racine, elle est là. Et alors pourquoi est-ce qu'on cherche toujours les solutions humaines les plus logiques, les plus raisonnables? C'est une phrase qui en dit long sur nous tous. Vous la connaissez, cette phrase-là. Et je suis sûre qu'on l'a tous prononcée. En tout cas, moi je l'ai fait. Peut-être que vous êtes suffisamment bon pour pas l'avoir fait, mais moi, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'on dit en général quand il y a un problème? Bah, il n'y a plus que la prière. Merci, Rémi. Eh oui. Je le dis aussi, hein, franchement. Mais c'est une honte. C'est pas bien. On le dit, je suis d'accord, hein, on est tous humains, on est tous pécheurs. Vous connaissez cette histoire, cette petite fille, à l'école du dimanche, la monitrice lui demande « Qui est le plus grand pécheur ?» Elle s'attendait à ce que chacun dise « Moi, évidemment. » Et la petite fille répond « C'est l'apôtre Paul, il l'a écrit. C'est moi le plus grand pécheur. » Eh oui, on est tous pécheurs. Et la prière, c'est le dernier recours. C'est la dernière chose à faire quand on a épuisé toutes les autres idées. Et ça me fait mal au cœur de me dire, moi aussi je dis ça. J'essaie toutes les solutions humaines et puis si ça ne marche pas, eh bien on prie. Et si on décidait de prier d'abord? Alors, ceci étant, Dieu ne crache pas sur notre sagesse humaine. Ah, vous vous souvenez le quadrilatère de Wesley que moi j'aime beaucoup, parce que justement il dit ceci, que la raison elle est valable dans la mesure où elle est soumise à Dieu. Et si je suis soumise à Dieu, ma raison, elle peut être très bonne. Et si on décide de prier d'abord, c'est pas impossible que Dieu nous inspire à utiliser la meilleure solution humaine possible. Mais c'est lui qui va choisir, qui va nous mettre à cœur vraiment après la prière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on prie, on part avec une idée. On voudrait bien que Dieu fasse ça et ça. Puis si on est honnête, si on a, comme dit Wimber, si on n'a rien dans les poches, qu'on est vraiment honnête, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que parfois, pendant le temps de prière, on est dirigé vers une autre solution. Et voilà, mais Dieu fait ça. Et si on décide de prier d'abord, peut-être qu'il va nous dire... Tu sais, cette solution humaine, elle est pas mal du tout. Prie pour que la personne soit réceptive, prie pour que ça se passe bien, blablabla. Il ne crache pas sur notre intelligence, pourvu qu'elle soit soumise à Dieu. C'est ça la différence. Alors on va prier, et si on décide de prier d'abord, on va dépendre de Dieu. Et si nécessaire, il fera un miracle. Quand rien ne marche, justement, il fera un miracle. Souvent, il va diriger notre regard vers une autre façon de voir. Ça, j'ai remarqué ça dans la prière. On démarre avec une façon de voir, et puis en priant, oh, on ne sait pas pourquoi, mais notre façon de voir, elle a changé. C'est pour ça qu'il faut prier. Hein, je vous disais la semaine dernière, notre ancien gardien, Louis, voilà, qui disait, mais pourquoi il faut tout le temps prier? Dieu, il n'est pas sourd. Il entend ce qu'on dit, on n'a pas besoin de lui répéter 36 fois, il n'est pas bête. Mais non, c'est parce que quand on prie, c'est nous qui changeons. Quand on s'approche de Dieu, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et quand on s'approche de Dieu, il s'approche de nous et il peut changer nos façons de voir, nos façons de penser. Et il va diriger notre regard peut-être vers une autre façon de voir la situation. Ça, on l'expérimente souvent. Et de la comprendre. Ne serait-ce que voir la racine au lieu de voir les branches. Et on va s'attaquer aux branches d'un problème, au travail, à la maison, n'importe. Et on va s'attaquer aux branches. Et le Seigneur dit, mais si tu voulais regarder la racine, ça ira plus vite. Hein? Si vous aviez autant d'orties que chez moi, vous verriez que rien ne vaut d'arracher les racines. Parce que les orties, vous pouvez les couper, elles repoussent deux fois plus belles. Ouais, c'est comme ça. Et la racine, c'est bon. Ça marche. Si Abner avait mis en premier l'écoute et l'obéissance à Dieu, on va terminer là-dessus, il n'aurait pas eu besoin de demander 24 champions. Et de faire tuer 24 des meilleurs guerriers, du coup, puisqu'ils se sont entretués. Il n'aurait pas eu besoin de se défendre et de tuer Azaël. Et de subir la revanche de Joab, ça sera pour la semaine prochaine. S'il n'avait pas tué Azaël, il aurait eu la vie sauve. Mais là, Joab n'a jamais voulu pardonner. Mais il a utilisé son raisonnement humain. Ça l'a mené à la catastrophe. Il aurait pu éviter de pourrir la vie du pauvre Ishbosheth aussi. Moi, je le plains, ce pauvre gars. Il n'avait rien d'un roi. Il n'était absolument pas appelé à régner, mais il l'a collé là comme un pantin. Il l'a mis en place sur un trône, et puis il a décidé, lui. Et puis ce pauvre Ishbosheth, il s'est fait assassiner après. On verra ça la semaine prochaine. Il a pourri la vie d'un autre, qui ne demandait rien à personne. Et il n'aurait pas eu besoin d'abandonner Ishbosheth s'il avait, dès le départ, dit Dieu a parlé et j'obéis. Voyez tout ce qui aurait été évité, les crimes, les guerres, les vengeances, tout ça, s'il avait bien voulu prendre cette parole de Dieu qu'il a fièrement annoncée à Ishbosheth, s'il avait commencé par là. Dieu a dit. Ben, il évitait tout ça. Et je pense que même, alors là c'est moi, hein, c'est pas la parole de Dieu, hein, je peux me tromper, hein, mais si ça se tombe, il aurait été bien avec David, il aurait pu travailler avec Joab, parce que là c'était exclu qu'il travaille avec Joab, il avait tué son frère. Mais il aurait pu travailler avec David et repousser tous les Philistins. Deux chefs de guerre de cet acabit-là, eh ben, ils repoussaient tous les Philistins. Et le pays pouvait vivre dans la paix. Il suffisait quoi? Obéir à ce que Dieu avait dit. Au lieu de le balancer à Ishbosheth quand c'était le dernier recours. Il aurait commencé par là. Il avait une belle vie devant lui. Ishbosheth aurait survécu aussi. Et puis David aurait été ravi. Et je pense que Joab aurait pu s'entendre avec lui. Mais voilà, il a tout gâché en faisant travailler son cerveau, sa nature humaine. Et pourtant, les idées, franchement, elles n'étaient pas mauvaises, mais ce n'était pas celles que Dieu avait prévues. Donc, Seigneur, nous te prions pour tous les choix que nous avons à faire, et particulièrement pour les plus jeunes qui sont dans les périodes où il y a mille et un choix à faire. Seigneur, donne-nous cette capacité, donne-nous la force d'avoir recours à ce que dit ta parole avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et à utiliser la prière non pas comme en dernier recours, mais en premier recours. Afin que tu nous inspires, que tu nous montres comment faire ces choix, que tu nous montres comment notre intelligence peut être mise à ton service, comment notre sagesse humaine peut être soumise à toi, et qu'il en sorte des bonnes et belles choses. Seigneur, on veut se souvenir de tous ces chrétiens extraordinaires qui ont soumis leur choix à ta parole et qui ont pu faire cesser l'esclavage, prendre soin des blessés sur les champs de bataille, faire des choses extraordinaires qui durent encore aujourd'hui parce qu'ils se sont soumis à ta parole avant leurs bonnes idées. Et leurs bonnes idées ont pu naître de ta parole. Seigneur, viens à notre aide, afin que dans tous nos choix, on fasse ce que tu veux, et que ton nom soit glorifié, et que, Seigneur, je sais que ça contribuera au bonheur de chacun aussi. Amen.